vue d'ensemble de l'actualité.
Je comprends que la situation, là, pour bien du monde, est un peu angoissante. Les États qui sont proches de nous autres et qui ont des grandes villes, bien, on voit Massachusetts, qui inclut Boston, hier, 2600 nouveaux cas. Le Michigan, qui est à peine plus gros que le Québec, avec Détroit, 6600 nouveaux cas hier. Quand on regarde l'ensemble du portrait, là, évidemment, il y a des États que ça va mieux et des États que ça va plus mal, mais en moyenne, aux États-Unis, toute proportion gardée, il y a deux fois plus d'hospitalisation qu'au Québec.
Drainville PM.
OK, François Legault, il y a un instant. Là, je veux juste vous dire, ça va être une grosse heure, parce que vers 14h15, on va connaître l'état réel des finances publiques. Et je vous le dis, là, Louis Lacroix, notre journaliste chef du bureau à Québec, va venir nous donner un résumé de la situation. Vous comprenez que ça nous intéresse beaucoup, 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 là, parce que là, le gouvernement... Qu'est-ce que tu veux? On se retrouve dans le rouge, profondément dans le rouge. Gérard a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, mais là, il faudra voir. Tu sais, je veux dire, quand t'es dans M, là. Puis là, t'as les syndicats qui négocient en même temps, là, au moment où on se parle, là. Et les syndicats, ben enfin, l'un des deux gros syndicats de l'enseignement vient de dire non à la proposition de Legault. Fait que je ne sais pas comment ça pourrait jouer sur les négociations qui sont en cours. On va aller rejoindre notre ami Luc. Bonjour, mon Luc.
Salut, Bernard.
Bon, on va faire un petit tour de la COVID d'abord, là, parce que tu y as fait référence tout à l'heure, là. Honnêtement, c'est l'eau monte.
Ah, l'eau monte d'une façon alarmante, là. Plus de 10 000 nouveaux décès hier dans le monde entier. 10 000. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on se promène entre 140 et 200. On a même atteint 240 à une journée cette semaine. Et là, ils ont un problème d'hôpitaux. Les hôpitaux sont une énorme tension. Par exemple, au Texas, dans la région d'El Paso, un État qui dépasse 1 million de cas détectés. Alors, à lui seul, plus de 1 000 personnes hospitalisées le comté d'El Paso, 1 000 personnes hospitalisées pour un peu plus de 6 000 dans tout le Texas. Écoute ça, les hôpitaux, ils sont occupés à 40 % par des malades de la COVID-19. C'est incroyable, hein? Alors, il y a même le gouverneur du Texas qui demande d'utiliser un centre médical militaire pour accueillir les patients autres que ceux atteints de la COVID. Eh bien, le système craque d'absolument partout, là. Mais, des fois, on va se trouver des bonnes nouvelles. Moi, j'ai beaucoup de confiance, parce que je le suis depuis des mois et des mois, au docteur Anthony Fauci, le grand spécialiste américain qui était soi-disant le conseiller de la Maison-Blanche, là, mais que Trump avait annoncé qu'il mettrait à la porte, là, ça sera plus le cas. Alors lui, hier, il a dit « Réjouissez-vous, la cavalerie arrive ». Et il parlait de vaccins. Évidemment, on a eu la nouvelle de Pfizer et BioNTech cette semaine. Ben là, ce que Fauci dit, c'est qu'il y en a un autre, celui de la firme Moderna, co-développée avec l'Institut national de santé américain. Paraît qu'ils sont sur le point de déposer eux-mêmes une demande pour obtenir l'autorisation de la FDA, Food and Drug Administration, pour pouvoir distribuer le nouveau vaccin.
Ouais.
Alors, ce que dit Fauci, c'est « baissez pas la garde », mais ces mots sont « la cavalerie, the cavalry is on the way ». En d'autres mots, restez calme, restons patients, soyons hyper prudents et la cavalerie s'en vient, c'est-à-dire le vaccin arrive, il va enfin se passer quelque chose.
OK, ben ça c'est assez encourageant, effectivement.
Oui, c'est assez encourageant. Ça c'est surtout que Fauci, depuis le début, la raison pour laquelle moi je l'admire beaucoup, c'est que ce qu'il a dit tout au long s'est produit exactement comme il l'a dit. Évidemment, il n'y a personne qui l'écoutait à la Maison-Blanche, là, puis ils ont même voulu avoir sa peau, puis ils ont essayé de salir sa réputation, et le reste, et le reste. Mais il est encore là. Et Joe Biden, ben lui, il se prépare à un mandat un peu spécial. T'sais, ça me rappelle un peu Barack Obama en 2008. Il arrive au pouvoir avec une vision optimiste, mais juste avant l'élection, un crash financier énorme. Il est arrivé dans une situation impossible. Ben, Biden arrive dans une situation où il va falloir qu'il agisse. Et l'interrègne et la bouderie de Trump et tout ça empêchent des décisions de se prendre.
Importantes.
Des décisions extrêmement importantes.
Très importantes, Luc, parce que si on veut être opérationnel le 20 janvier, il faut que tu prennes progressivement le contrôle de la machine avant le 20 janvier. Et Trump l'empêche de le faire.
Mais oui, mais il n'y a pas seulement ça. Bien au-delà de ça, si Trump se conduisait comme il devrait se conduire, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire des États-Unis, s'asseoirait avec le nouveau président élu puis dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ben lui qui a le pouvoir. Ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je reconnais qu'il y a une crise. Mais Trump, il ne reconnaît pas. Il reconnaît, ben, on sait plus ce qu'il reconnaît et qu'il reconnaît pas. Il est silencieux depuis jeudi dernier. Alors, on ne sait pas où il s'en va, mais ça fait que l'interrègne, puis la bouderie, puis les conneries à Trump font en sorte qu'il y a des morts et des morts qui s'accumulent 1500, 1600, 1700 par jour. Ouais. Et hier, j'écoutais l'entrevue avec Sanjay Gupta, tu sais de qui je parle, j'imagine le médecin qui est...
Ben oui, à CNN. Là,
hein? À CNN, qui est l'espèce de correspondant médical de CNN et qui est un gars assez raisonnable. Et dire hier qu'il venait d'aller faire des vérifications et qu'au rythme où allaient les choses, je te l'ai mentionné plus tôt, on atteignait le point où on est dans la même situation qu'il y a un siècle lors de la deuxième vague de la grippe espagnole en nombre de cas, en nombre de décès et tout. Alors, c'est comme, oh! En 100 ans, c'est comme si le monde n'a pas évolué du tout. Et moi, ce qui me chagrine au plus haut point, c'est que quand on regarde les États-Unis, vu du Québec, vu du Canada, on pense à un pays qui a un système de santé totalement déficient. À bien des égards, c'est vrai. Ceci étant dit, à cause de la structure économique du système de santé américain, il se fait plus de recherches là que n'importe où ailleurs dans le monde. À peu près toutes les grandes avancées de la médecine, hein, dans les maladies cardiaques, dans l'oncologie et tout ça, ça a été découvert aux États-Unis. Ce que j'essaie de dire, c'est que si Trump avait agi comme un leader aurait dû agir, il aurait comme alerté tout ce monde-là pour dire « Hey, on se met tous ensemble, là, puis on va trouver une solution, tu comprends? Ouais. » Mais non, ils l'ont pas fait, ils ont pas rassemblé. Écoute, moi-même, quand j'ai été en vacances, à un moment donné en Californie, là où j'habitais, c'était tout près du campus de l'Université de Californie à La Jolla, qui est spécialisé en médecine. Il y avait 15 prix Nobel qui vivaient là, sur le campus. Comprends-tu? Les Américains sont ceux qui auraient pu le plus aider à l'heure actuelle. Trump les en a empêchés.
Là, je viens de voir ça passer. Là, les conseillers de Trump sont divisés quant à savoir s'il va tenter de s'auto-pardonner, de se donner un pardon présidentiel pour évidemment éviter d'éventuelles poursuites ou d'éventuelles accusations une fois qu'il va quitter la Maison-Blanche. Écoute, c'est quand même incroyable juste le fait qu'il l'envisage. Juste le fait qu'il l'envisage.
C'est l'absurdité.
J'allais dire, oui, puis c'est de l'abus de pouvoir. Là. On s'entend qu'on est dans une sorte de...
Minimalement.
D'autoritarisme.
Oui. Puis il y en a même qui commencent à parler d'allure de coup d'État. Tu as vu ce qu'il a fait au Pentagone?
Ben oui, j'ai vu ça.
Il a sacré à la porte le secrétaire à la Défense, mais aussi 5 des plus hauts collaborateurs en haut, là. Puis il paraît que son dernier cadeau aux Américains, ce serait qu'il veut retirer les troupes d'Afghanistan, ce qui, en passant, n'est pas une mauvaise affaire. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il aurait fait ce qu'il a fait là. L'armée s'y oppose. Il va imposer sa volonté, mais d'autres pensent qu'il y a des idées encore plus noires que celles-là.
C'est-à-dire?
Des idées qui pourraient ressembler à un coup d'État.
Ben oui, mais là, l'armée va pas obéir. Tu peux pas faire un coup d'État si t'as pas l'armée avec toi. L'armée embarquera pas dans son manège, là.
Non, mais si l'armée est sous contrôle puis qu'ils n'interviennent pas dans l'autre sens, enfin, je veux pas exagérer cette possibilité-là.
Non,
mais ça fait partie de la conversation que les Américains ont présentement. Où est-ce qu'il s'en va, Trump, pendant que le pays meurt? Pendant que le pays est en train de crouler sous une pandémie qui est en train de détruire son tissu social, où est-ce qu'il s'en va dans ces bouderies-là? Et Biden, lui, à part de sortir sur la place publique puis dire « j'ai nommé un comité spécial d'aviseurs, je recommande aux gens de porter le masque », il peut pas rien faire. Il n'y a pas de pouvoir. Puis le Congrès, ben, il n'y a personne qui a de pouvoir à l'heure actuelle. Et il y en a un qui a du pouvoir, c'est le président à la Maison-Blanche. Mais il est un lame duck, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il peut pas prendre de décision avec des conséquences à long terme, en principe. Mais il peut facilement s'asseoir, comme George W. Bush l'avait fait avec Barack Obama, pour sauver l'industrie automobile en 2008.
Ben oui, comme ça se fait habituellement. Je sais pas pendant combien de temps est-ce que Biden va garder son sourire, puis garder son calme, et puis faire, dans le fond, pas comme si de rien n'était, mais dans le fond, de dire, écoutez, laissez-les faire son cirque. Les choses vont bien se passer, puis le 20 janvier, je vais prendre le pouvoir. C'est cette attitude-là qu'il a, relativement cool jusqu'à maintenant. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, Luc, il va devoir faire monter le ton un petit peu, puis provoquer, peut-être, je sais pas, appeler à l'opinion publique pour qu'il, tu sais, qu'il demande à
Trump... Je crois pas,
non?
Je crois pas, parce qu'il doit se méfier fondamentalement de la capacité de Trump de faire une assemblée politique de 35 000 personnes dans un de ses fiefs, là. Et
avec des guns,
puis avec des milices, puis les pompées, puis tout ce que tu veux. Je pense que Biden, il fait son travail, il vient de nommer son chief of staff, il va commencer à nommer des membres du cabinet. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre.
D'accord.
Je le vois vraiment pas. Et je voulais finir, Bernard, en te parlant de... C'est maintenant officiel, c'est le plus haut taux de participation à une élection en un siècle aux États-Unis. On projette que quand tous les décomptes seront terminés, il y aura eu 66,5% des Américains qui ont voté. Alors qu'en 2016, c'était 60,1%. Et en 2008, année où il y avait eu beaucoup d'enthousiasme pour Obama, c'était 61,6%. Il faut aussi se rappeler que Joe Biden, on parle d'une victoire courte. Elle n'est pas si courte que ça.
Ouais.
Il a eu plus de votes qu'aucun candidat à la présidence dans toute l'histoire des États-Unis. Alors, on a beau dire, on a beau faire, là, il y a eu quand même 75 millions de votes. Là,
mais tu sais que c'est vrai pour Trump aussi.
C'est vrai pour Trump aussi.
Trump a eu plus de votes
71 millions.
Ouais. Trump a eu plus de votes que n'importe lequel autre gagnant de l'élection présidentielle de l'histoire. Faut pas l'oublier, ça non plus.
Répète-moi ça, Bernard.
Ouais. Trump a eu plus de votes.
Oui.
Que n'importe lequel autre candidat à la présidence, à part évidemment Biden, qui a gagné.
Ah oui, c'est lui, il est en deuxième place. Non,
voilà,
je crois,
c'est
ce
ça,
que tu
il
dis.
Est en deuxième place, exactement. Fait qu'il y en a eu du vote lui aussi. OK, Luc, on se reparle un peu plus tard parce que on va se parler notamment de la situation budgétaire du gouvernement du Québec. On va avoir un petit rapport là-dessus dans les prochaines minutes. On aura l'occasion de s'en
reparler. Que je veux juste un mot pour te dire, l'entrevue avec Mallette, là, c'était assez pour mettre en colère.
Ah, mais ça te... Si tu savais, moi, là, mon écran... Et rouge.
Quel manque de jugement.
Mon écran, là, sur lequel je reçois mes textos actuellement, là, est rouge vif. Rouge de colère, là. La colère des citoyens puis de certains enseignants aussi qui m'écrivent, là. Luc, c'est hallucinant à quel point les gens ont trouvé ça absolument abominable.
Irresponsable, c'est carrément irresponsable.
Ils sont furieux. Le citoyen moyen, là, puis j'ai reçu assez de textos. Je te le dis, là, Luc. J'ai rarement reçu autant de textos pour un segment que j'en ai reçu là dans les suites de la dans les minutes, dans les secondes même qui pendant l'entrevue puis dans les secondes qui ont suivi l'entrevue. Je veux dire, c'est incroyable à quel point il a touché un nerf sensible.
Puis
j'ai
ouvert la porte plusieurs fois pour qu'il change un peu de langage.
Non, c'est
moi qui mène au Québec. Non, tu comprends, nous les syndicats du secteur public, les patrons ici.
On se reparle, Luc.
À tantôt.
On s'en va à la pause. Au retour, il va être question des finances du gouvernement. Il va être question également d'une histoire. Comment nos snowbirds s'y prennent pour retourner aux États-Unis, mais d'une manière un petit peu crapaude. Un petit peu crapaude dans un instant.